bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. La bande originale, soyez les bienvenus avec Léa Cadeau-Boudoui.
Bonjour à tous.
Monsieur Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Tom Villa.
Bonjour.
Alexis Rossignol. Tout à l'heure, Tanguy Passureau et nos invités Alix Poisson et Laurence Coquer.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue de retour. Ça prouve au moins que ça s'était pas trop mal passé la dernière
Merci.
Fois.
Ah non, moi j'adore venir. J'adore.
Pour l'un comme pour l'autre. trop tard.
Plus timide chez Laurent.
Trop tard, Laurent. Ça, vous avez dit ça après, Alix. C'est ça la différence. On va parler d'une série forte qui s'appelle Jeu d'influence. Évidemment bien joué, bien réalisé, puis avec le en toile de fond tous les lobbies autour de l'écologie, des pesticides. C'est à croire d'ailleurs que ça a pu être tourné hier, tellement tout est très présent dans les esprits. Mais elle remonte à quand d'ailleurs, la première fois qu'on vous en a parlé, Alix Poisson, de cette série?
Qu'on nous en a parlé,
parce que
nous,
c'est très temporel.
Ah oui, c'est, non, c'est assez fou. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'ils ont écrit, Jean-Xavier de Lestrade et Antoine Lacomblaise ont commencé à écrire la série il y a 5 ans.
Ah oui. Ah oui.
Et au fur et à mesure qu'ils écrivaient, ils se disaient, mais c'est incroyable, le réel nourrit notre,
c'est fou.
Notre écriture.
C'est... Et à partir du moment où on vous avait lu la série, est-ce que vous êtes intéressé un peu plus à cette actualité? Est-ce que vous tendiez l'oreille quand on parlait de pesticides?
À un moment donné, on essaye de se dire qu'est-ce qu'on mange, comment on vit, quoi.
Alors, vos personnages, vous êtes un homme politique qui siège à l'Assemblée nationale, vous, Laurence Stocker.
Mais je suis vraiment un homme politique.
C'est ça. Nous sommes tous.
Je suis habillé d'ailleurs en homme politique.
Tout est politique. Tout est politique. Le mec, il a tellement vécu son rôle. Et Alix Poisson, vous êtes une journaliste d'investigation qui vit un virage dans sa carrière et rentre.
Une journaliste politique.
Politique, pardon. Et rentre dans le milieu du lobby dès le début.
Oui, on devine qu'elle avait des convictions, parce que sinon je pense qu'on ne peut pas être journaliste politique, et comme elle est à un moment de sa vie pas très réjouissant, elle est au chômage, elle vient de se séparer, enfin bon, je pense qu'elle est un peu dans le besoin, et quand elle est approchée par ce cabinet de lobbying, il y a plein de raisons aussi souterraines qui font qu'elle a un peu, je pense qu'elle a vendu son âme au diable, et donc elle y va.
Et un très gros salaire aussi.
Et en plus... un très gros salaire, qui je pense est souvent le cas.
C'est l'une des phrases qui est employée, c'est vendu au diable, oui, très cher, c'est-à-dire elle le dit elle-même, quoi.
Elle le dit, mais c'est pas que dans ce sens-là.
En provocation.
Elle a vendu son âme très cher financièrement, mais elle l'a aussi vendu parce que, si elle a pris cette décision de travailler pour un cabinet de lobby, donc là je fais un gros teaser pour les gens, c'est qu'il lui est quand même arrivé des choses très graves dans le monde de la politique.
Garder le silence.
Et que du coup, elle décide de... c'est une petite revanche.
Ouais. Oui, il y a un problème avec un ministre.
Et là aussi, absolument dingue. Ouais. Je veux pas spoiler, mais absolument dingue. C'est-à-dire, la série a été écrite il y a 5 ans, avant qu'on parle de tout, à ce point, de harcèlement sur les femmes.
Le Denis Baupin, quoi.
Les 13, 20.
Parce qu'ils le portent sur eux.
Et 27 juin, ça sera sur Arte, on l'a pas dit, à 20h55. Mais d'abord, on va en reparler. Mais d'abord, des questions concernant Alix Poisson.
J'adore ce jeu.
Et Laurence Stocker.
C'est ma passion. Je vous écoute, quand je travaille pas, je vous écoute tous les matins. C'est ma passion.
On va voir. Alix Poisson, que fait-elle pour se détendre?
Elle nage.
Yoga,
elle dort, elle lit, elle sort, elle boit des coups.
Non.
Ce qui est génial, c'est que là, j'ai pas la réponse pour le coup.
T'as dit quoi? Parce que tu fais plusieurs choses pour te détendre, non?
T'as pas le droit. T'as pas le droit
à la pêche.
Pourquoi?
Alors déjà, Alix Poisson, elle
va à la pêche.
Oh, elle est bonne, arrête, elle est drôle.
Oui, j'avais pas le droit. Oui, elle était tellement loin, même moi, je l'avais pas perçu.
Elle va à la chasse. Non, mais ça va, c'est bon.
Elle va au théâtre, elle voit des films, des expos, elle dort.
C'est une activité, en tout cas, physique.
Solitaire,
du
yoga.
Elle fait du vélo, du basket.
Non, je dis du yoga, oui, c'est vrai.
Oui, mais c'est
la gym, la course.
Moi, parmi les notes que j'ai lues,
ça peut quelque part se rapprocher du sujet de
la pêche,
de jeu d'influence.
Elle marche dans la campagne.
Elle fait des fleurs, les légumes,
du lobbying.
Fait du jardinage.
Oui,
du jardinage. Ouais. Depuis que j'ai dit ça, c'est hyper drôle. Parce que tout le monde m'en parle. On a l'impression que je suis une vieille personne, tu sais.
Surtout, on a l'impression que t'as un grand jardin en plein Paris.
Avec sa petite binette.
Surtout, vous avez dit, il n'y a rien de plus qui me détend.
Oui, alors ça, alors on
c'était dans Truffaut Magazine aussi,
non,
ça joue.
Non, alors on est bien d'accord que j'ai jamais dit cette phrase-là, bien sûr, mais que la
c'était
personne
dans
s'est
Ouest
dit,
France.
Ça va claquer un peu plus si on dit qu'il n'y a rien qui la détend plus. Après, il est vrai que j'aime
bien
jardiner.
Dans votre famille, puis dans votre famille, votre
grand-père. Voilà, moi j'avais un grand-père que j'aimais énormément et qui vraiment s'est beaucoup occupé de moi et qui m'a appris à jardiner. Quoi, non mais ceci dit, ça rejoint ce dont on parle, qui m'a appris à jardiner et qui m'a vraiment appris ce truc-là. Et je pense que ça ne peut passer que par là, qui m'a appris à respecter la terre, à respecter la nature, à pas mettre des saloperies dedans, à respecter les saisons, à manger deux saisons. C'est quelque chose qui m'a appris pour de vrai depuis vraiment ça va, à ça partir va, de 3 ans.
Ça va revenir.
Quoi.
Mais en tout cas, il faut pas oublier, mais vous êtes tous trop jeunes autour de cette table, que c'était une fête quand la maman, je pense à la mienne évidemment, me disait les fraises
voilà.
sont arrivées,
ben ouais. les cerises sont arrivées. Les fraises sont jeunes.
Et c'était la fête, quoi.
Mais bien sûr.
Et là maintenant...
Moi j'étais pauvre, c'était pareil.
Ouais. Elles n'arrivaient jamais.
Elles n'arrivaient jamais, mais...
mais on te disait que ça existait, déjà, c'était bien.
C'est quoi ça, c'est une fraise, des gens qui en mangent.
Tout le monde parle en même temps, j'adore, au soir.
Et les cailloux, ça se suce pas. Les cailloux, non. À quoi peut passer Laurence, ou à qui, peut passer Laurence Tucker une nuit entière? À quoi peut-il passer?
Ah, il regarde les étoiles.
Exactement.
Ouais. Wow. Ouais, l'astronomie, c'est une passion.
Vraiment.
Oh, le lover. Oui, enfin, disons 4 heures, quoi. 4-5 heures. À partir
donc
du moment où le soleil se couche.
Vous avez une lunette?
Une lunette, mais à la campagne, pas ici.
Parce et que le ciel est plus dégagé à la campagne.
Oui, le ciel est plus. Ouais. Il faut que ce soit un ciel totalement dégagé. Et il faut que ce soit. On parle de pollution, il y a la pollution lumineuse aussi. Ouais. Je regarde Jupiter, les anneaux, enfin c'est pas non plus,
T'as pas un doctorat en astronomie?
Non, non, mais ça me passionne parce que...
Alors pourquoi?
Parce que on voit dans le passé quand on regarde les étoiles en fait. C'est-à-dire que les étoiles sont entre 8 minutes pour le soleil, donc quand vous regardez le soleil...
Ce qui est très mauvais.
8 minutes, faut pas le regarder, voilà. Il met 8 minutes pour... Il y a un filtre, ça s'appelle le sun sur le télescope, et en fait il met 8 minutes, la lumière met 8 minutes pour arriver. Donc si vous regardez une étoile qui est à 3 millions d'années-lumière, ça c'est hypertonique parce que vous vous dites c'est le moment où Lucie commence à se mettre droite, quoi. Donc c'est le moment où,
c'est vrai que c'est fou,
où les humains commencent à naître, en fait. Donc vous avez la lumière de cette étoile au moment où l'humanité
sapiens,
démarre.
L'homo sapiens, c'est
Erectus,
se dresse sur ses deux pieds.
Donc après, vous pouvez regarder d'autres étoiles en fonction de choses, vous dites tiens, je regarde une étoile qui est à 46 années-lumière, bon ben c'est la lumière qui arrive quand je nais.
C'est génial.
Voilà, c'est une sorte de...
C'est un peu mystique quand même.
Ouais, il y a quelque chose qui a à voir avec ça.
Mais qu'est-ce qu'on boit en regardant les étoiles?
Il aime le vin.
On
aussi.
Voit la lumière, on
non,
voit...
Qu'est-ce qu'on boit?
Qu'est-ce qu'on boit, oui.
Qu'est-ce qu'on écoute comme musique? Enfin, quel est le...
Bah, ça dépend de ce qu'on regarde en fait. Si vous regardez le soleil, il faut
du reggae.
Du reggae et du rhum. Mais si vous regardez une
J'ai l'impression que le silence va bien aussi avec ce genre d'observation, non?
Ah bah c'est totalement.
C'est sûr, si à côté de toi t'as quelqu'un qui a
totalement silencieux.
Non, regarder les étoiles.
Ce qui est impressionnant la nuit qu'en fait de l'astronomie, c'est que justement il n'y a pas le bruit habituel et il y a des bruits des animaux justement.
Ouais.
Des animaux de nuit.
Des chouettes.
Donc quelquefois vous faites des sursauts parce que vous avez un chat qui est arrivé sans que vous le voyez puisque les chats eux voient dans la nuit mais pas vous et des choses comme ça des rats des bêtes des escargots écrasés des choses comme ça.
Quand il y avait récitation à l'école, que faisait Alix Poisson?
Elle levait la main pour être la première.
Elle l'a portée. Mais elle a porté quoi?
Elle a porté des récitations.
Non,
un petit billet de 50.
Une flûte.
Elle faisait des dessins. Elle a porté des gâteaux, des bonbecs. Elle a porté des bonbecs pour quand?
Un instrument?
Non.
Elle rajoutait des mots dans les.
Elle jouait un costume.
Ouais, des déguisements.
Oh là là. Alors, c'était ma passion, les récitations. Et ma mère raconte toujours... Moi, j'ai un souvenir précis, mais elle dit toujours, quand il y avait récitation, mon Dieu, tu partais. Mais vraiment, je pouvais partir avec deux valises. Et il y avait
des accessoires,
un paravent. Et j'avais mobilisé trois ou quatre copines. Je me rappelle, j'avais mis en scène la cigale et la fourmi. Donc, la fourmi, c'était une petite vieille, toute moche. C'était moi. Puis ma copine, elle faisait la cigale. Donc, j'avais habillé en Marilyn Monroe, avec une robe blanche, une perruque blanche.
À quel âge?
J'avais 9 ans. J'avais 2 ans, j'étais très précoce. Non, là, j'avais 10 ans, j'étais en 6e.
D'accord.
Voilà. Ouais. C'était un spectacle. Donc, la professeure, je me rappelle très bien, Madame Barillon, disait, il y a récitation, c'est Alix Poisson, donc je prévois 40 minutes. Donc, en fait, ça prenait l'heure.
Parce qu'il y avait une installation.
Ah oui, oui. C'était un spectacle.
Mais on n'est pas sûr de passer. Vous savez, dans une classe de 20, 30.
Ah si, moi, je demandais à passer. Moi, j'avais rendez-vous. Je disais, est-ce que tu veux faire récitation tel jour?
Mais Tom a raison. Je me
suis croisé les doigts.
Non, mais on apprenait, on savait pas d'abord.
Il y avait aussi l'envie de ne pas passer. Certains cas.
L'outing de Laurent,
non,
de la Comédie française qui ne voulait pas réciter sa poésie.
Je me souviens que je me disais, oh là là, j'espère que ça va pas tomber sur moi.
C'est vrai?
Ouais.
Vous étiez pas bon à l'école en récitation?
Non.
Comme quoi, tout est possible.
J'étais pas bon en récitation, mais j'étais bon en pièce, en quand on faisait des petites scènes de Molière,
pour, retenir les dialogues.
Ça, ça bien.
Quand Laurent est sur une plage en vacances, que lui arrive-t-il assez fréquemment?
Il s'endort.
On lui demande de se rhabiller.
Il s'endort.
Alors.
C'est un classique.
Il s'endort.
Il s'endort au soleil.
Non, alors c'est pas il s'endort.
Mais il somnole.
Presque.
Non.
L'eau lui arrive au niveau des pieds.
Il fait semblant de dormir.
Non.
Mais quoi?
Mais non, attends, mais quoi? Il s'endort. Mais pas.
Il s'endort. Non, presque.
Il est à la plage.
Oui.
Il se fait enterrer dans le sable.
Comment vit-il cette situation?
Il aime pas du tout
comme
ça.
Comme un mort.
Ah, il aime pas le sable.
Non. Comme un mort.
Comme un mort. Comme un mort.
Mais je me dis qu'il s'endort, ça devient
super bizarre.
C'est pas un plaisir, quoi.
Voilà.
C'est un supplice.
Donc.
Donc
il pleure.
S'énerve, il
pyramide.
Ouais, non mais j'accepte.
L'ennui.
Voilà, c'est ça. C'est l'ennui total. C'est, vous n'arrivez même pas à dormir en fait, ce qui serait.
J'arrive même pas à lire sur une plage en fait. Je m'ennuie sur une plage.
Mais qu'est-ce qui vous plaît pas? C'est la chaleur.
Tout. La chaleur, le ciel bleu, la mer.
C'est Woody Allen en fait.
Allez, alors
non mais parce que quelquefois je suis en famille et que.
Quelquefois je suis en famille. J'ai un truc qui s'appelle la famille autour
le
de moi.
Non,
des gens, me suivent.
Ma femme adore la plage et bon je l'accompagne mais je regarde quand j'arrive et je me dis bon vivement qu'on retourne.
Mais faire des trucs à la plage est envisageable?
Non mais nager oui. Mais par contre rester sur un transat.
Des châteaux de sable.
Des trous.
Ouais, ça, c'est marrant.
C'est valable à la piscine.
Enterrer les enfants.
Non, la piscine, non, j'y vais pour nager. Ça, c'est autre chose. C'est vraiment l'idée de la plage et du ciel bleu.
Excuse-moi, mais il y a quand même quelqu'un qui a proposé d'enterrer les enfants sur une plage.
Enterrer les enfants sur une plage, attention.
On a entendu une phrase comme ça.
Oui, c'était bizarre.
C'était enterrer les enfants.
Oui.
Pour jouer.
Mais c'est une vraie occupation.
Laisse dépasser la tête.
On m'enterrait souvent.
Laisse dépasser la tête maintenant.
Alors, il faut se poser des questions.
Non, ça m'ennuie. Le
psychanalytique. Mon père m'intéresse souvent.
Le ciel bleu m'ennuie terriblement.
C'est une première phrase de roman.
Quel genre d'homme fait craquer Alix Poisson?
Putain, alors là, je ne sais même pas de quoi on parle.
Ses partenaires.
On parle de sexe, Alix.
De sexe.
Les poilus. Les poilus.
Justement, je vois pas du tout de quoi on parle.
Les poilus.
Les grands.
Le contraire.
C'est un truc romantique ou pas?
C'est, non, c'est dans le comportement, un homme peut d'un coup là, elle peut être séduite
par le mec un peu brusque,
timide. C'est timide.
Alors pas timide,
un peu brusque,
maladroit.
Maladroit, oui Tom. Exactement. Ah, vous maladroit. Aimez les maladroits, pareil.
J'aimerais connaître la source de cette phrase.
C'est Pierre Richard.
Est-ce que je ne vois pas du tout de quoi on parle?
J'ai une passion pour les hommes maladroits, ceux qui cassent des trucs sans raison, qui tombent par terre, un peu des Pierre Richard au quotidien.
Alors,
c'était dans C'est à vous.
Je n'ai jamais dit ça.
C'est à vous que vous avez dit ça l'année dernière.
Le verre de trop.
Ok, comme quoi, des fois, on est fatigué et.
Se souvenir de ce qu'on a dit.
Ouais, c'est ça. Mais en vrai, là, j'ai un bug. Je ne me rappelle pas l'avoir dit. Après, c'est vrai que je trouve vraiment beaucoup plus
touchant.
Les gens qui ne sont pas dans une représentation et pas dans le contrôle et qui peuvent avoir une forme de maladresse, voilà, je trouve
l'homme... ça. ça t'arrange surtout. L'homme trop sûr, l'homme musclé, avec pose ta tête sur mes épaules, je vais te protéger.
Non, si, on veut bien être protégé de temps en temps quand même. Mais quand si c'est trop, je gère tout en permanence et tout, alors moi ça me fait fuir tout de suite.
Grâce à quel événement Laurent Stoker a-t-il pu jouer sa première pièce à la Comédie Française?
Ah bah ça je sais moi.
Parce que quelqu'un était fatigué, tombé, a oublié son texte, était malade, il a remplacé.
Vas-y, joue tout seul.
Vas-y, joue tout seul. Vas-y, non mais.
Bravo.
Un accident.
Occupation du terrain, total.
Ouais. C'est comme ça qu'on gagne, les mecs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Mais voilà.
C'est dans la win.
C'est dans une forme olympique.
Mais alors.
Est-ce que vous gagnez quelque chose à la fin
de l'année?
Il y a une prime.
Si, si, Alex.
Il y a une prime à la fin de l'année.
Non, non, Alex, c'est pas ça. C'est juste le plaisir de gagner.
Mais voilà.
Et voilà. C'est juste pour titiller Pierre de Coubertin qui, lui, ne voulait que participer. Nous, on veut gagner. C'est tout. Une autre génération. Est-ce que tu sais quelle maladie avait le comédien qui l'a remplacé au pied levé?
Ah, voilà.
La syphilis.
Pas loin.
La jaunisse.
C'est de l'autre côté. C'est de
l'autre côté. Pisse.
Une occlusion intestinale.
Oh, c'est horrible.
J'ai remplacé un comédien moi, j'étais parti avec ma femme en Amérique du Sud, qui, elle, jouait dans la pièce.
Du coup, t'as été sauvé de la plage.
Voilà. Et à Rio. Et puis, il y a un comédien qui s'est fait opérer en urgence. Je connaissais le metteur en scène. Il m'a dit, bon, est-ce que tu veux bien jouer le rôle d'Octave dans Les Fourberies?
Puis, et t'as appris le texte en deux
et
jours.
Et alors, le texte, c'était extraordinaire. Les Fourberies de Scapin. Les deux premières phrases, c'est fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux. Mmh. C'est vrai, puisque j'étais avec ma femme. Bon. Dures extrémités où je me vois réduit. C'est les deux premières phrases. Et donc, ça me suit depuis 18 ans à la Comédie Française.
Ça vous a marqué apparemment.
Ouais, ouais, ouais.
Revenons donc à cette série créée par Jean-Xavier de Lestrade et Antoine Lacomblaise, pardon, réalisée par Jean-Xavier de Lestrade avec vous, Alix Poisson et Laurent Stocker. Il y a également Jean-François Civadier, Pierre Perrier, Christophe Kourotchine et Marliou Assilou.
Marliou Assilou, Thierry Ancis, Anne Cossens, Yannick Chouara, Guillaume Marquet.
Cette fiction a reçu déjà le prix de la meilleure mini-série au Festival de Fiction TV de La Rochelle. Oui, et alors on découvre, parce que on a le sentiment que tout est vrai. Alors après, à quel point ça a été documenté, c'est une investigation. Mais le sentiment de se dire que tout est une histoire d'influence, justement, de trafic d'influence. Alors c'est le mot jeu qui a été utilisé, mais on sent plutôt le trafic et la magouille en permanence.
Bah c'est le principe du lobbying, je veux dire.
Tout est une question d'argent et d'influence.
Bien sûr, mais comme là, ça se penche particulièrement sur le lobbying. Le lobbying, c'est quand même un groupe de personnes qui entendent défendre des intérêts privés et qui vont chercher tous les moyens de pression ou d'influence sur des personnes publiques ou sur des personnes qui ont du pouvoir.
Et ça ne s'arrête pas à une simple démonstration de voici nos produits comme ils sont merveilleux. Et dans la série, on le voit bien, c'est que ça peut aller très très loin.
Ça peut aller très très loin parce que de toute façon, à partir du moment où les produits sont toxiques, puisque maintenant on le sait, je veux dire, il y a eu une forme d'hypocrisie pendant un moment, mais maintenant on le sait, ils savent très bien qu'ils sont leur... Comment dire, ça serait encore pire si eux-mêmes faisaient l'article de ce qu'ils veulent vendre. Donc le seul moyen d'arriver à écouler tout ça, c'est quand même de travailler en souterrain. Et donc pour travailler en souterrain, tous les moyens sont bons, puisque vous êtes invisible. Donc ça peut être des moyens de pression, ça peut être des fichiers, ça peut être ce qu'on appelle l'astroturfing, donc faire semblant qu'il y a des mouvements d'opinion spontanée, d'agriculteurs qui défendent le glyphosate, alors qu'en fait vous avez tout orchestré. Et ça peut être après des moyens de pression, mais ça c'est vrai, ça a existé. Ça peut être des moyens de pression physique sur certaines personnes qui ne servent pas bien vos intérêts.
Ouais. Puis ça peut être des moyens indirects aussi.
Et indirects, souterrain, c'est ce que...
série, ce personnage politique que j'interprète, ils comprennent qu'ils n'arrivent pas à l'avoir parce qu'il reste sur ses acquis et il n'a pas envie de travailler pour eux. Du coup,
non, mais pardon, il est honnête.
Il est honnête.
Il y a des choses qu'il refuse.
C'est quelqu'un qui... C'est un homme de conviction.
Voilà, et même quand son
Pierre Perrier qui joue l'assistant...
passe par une magouille, voilà, il n'aime pas ça, quoi.
Il n'aime pas ça et du coup, pour essayer de le salir et de l'avoir avec eux, il passe par sa femme, etc., par des gens proches, quoi.
Et à quel point c'est vrai? C'est-à-dire que moi, ce qui me fait flipper, c'est que il y a des moments où on a l'impression que c'est un reportage.
Vous savez, toute
ressemblance avec
justement, moi, je pense que c'est important de dire que c'est possible et que ça existe. Parce que, comme à la base, Jean-Xavier de Lestrade, il est documentariste. Donc, forcément, à chaque fois, il passe par un gros travail de documentation, d'investigation. Ils ont rencontré beaucoup de gens avec Antoine Lacomblaise. Ils ont même rencontré des lobbyistes, même si c'était très difficile. Mais ils en ont rencontré. Et la plupart des choses... quasiment tout, en fait, est vrai. Après, évidemment que l'idée, c'est qu'il y ait aussi une part de romanesque, parce que sinon, ça serait pas une belle fiction. Ouais. Ça serait un truc pédagogique, et ça serait beaucoup moins... on serait pas émotionnellement convoqué, donc ça serait pas intéressant. Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est que là, des fois, je fais la promo, je rencontre des gens, et souvent, il y a des gens qui me disent « Oui, non, mais ce truc-là, quand même, dans la série, c'est énorme, enfin, ça n'existe pas. » Et je dis « Alors là, pas de peau, parce que c'est le truc, carrément, il y a des articles dessus, c'est arrivé, c'est circonstanciel. » Quoi.
Argent, sexe, pouvoir, influence, enfin il y a tous les ingrédients et ça marche d'ailleurs pour que ce soit passionnant. On ne peut pas rester indifférent devant la série. C'est
et
impossible.
Puis les personnages ne sont pas en effet si transparents que ça. Donc
oui,
c'est
puis
ce qui est intéressant.
Ils sont un peu plus troubles, ils ne sont pas complètement manichéens. C'est pas,
c'est ça.
Et ce qui est super et là où ils ont
tout
vraiment réussi, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de personnages qui sont troubles, mais qui ne sont pas troubles juste pour appâter le spectateur, qui sont troubles comme on peut chacun être dans une vie, quoi. C'est-à-dire en fonction du moment de vie où on est, en fonction de ce qui nous arrive. Moi, typiquement, là, je spoil rien, mon personnage, elle arrive au début, elle s'est fait renvoyer, elle n'a plus de taf, elle n'a plus d'argent, elle vient de se séparer, elle est toute seule.
Elle va mal. En fait.
Elle va mal. À un moment, elle est approchée par ce cabinet de lobbyistes.
Mais elle est connue du milieu.
On peut comprendre.
Elle est connue du milieu.
Bien sûr.
Voilà, à l'Assemblée nationale, on sait qui elle est, elle a sa réputation.
Le problème, c'est qu'elle ne dit pas forcément qu'elle est passée de l'autre côté. Début. Ouais, c'est ça le problème.
Ouais,
c'est que les politiques la croisent et se disent « Ah bah c'est la journaliste politique. »
Ouais.
Et c'est plus tard qu'on se rend compte compte que en fait ça fait un moment qu'elle est.
Et ce qui est intéressant, c'est que on parlait tout à l'heure des tentatives de manipulation. Ça vient poser aussi plein de questions, je trouve, sur l'exercice du pouvoir en tant que politique, parce que ça sous-tend qu'il faut être d'une exemplarité absolue, ne pas avoir de petits dossiers derrière soi, parce que si on veut pouvoir pousser un amendement, il faut pas que derrière on puisse nous faire du chantage.
Absolument. Donc c'est mieux d'être le rapporteur.
Voilà, ça sous-tend que dans son entourage proche, on se doit aussi à une certaine forme d'exemplarité. Sinon, on se fait attaquer de toutes parts et on peut détruire une réputation d'un politique. Et puis, je trouve que ça repose une autre question.
On ressort des casseroles qui peuvent remonter à des
décennies.
Parce qu'on
a tous un passé, on a tous soit un jour pris une contravention.
C'est pas Leïla.
Je me suis jamais fait attraper.
Mais non.
Et donc, il n'y a pas de dossier.
Pourtant, c'est tous les soirs.
Et pourtant, il y a des vidéos.
Il ne me suit pas. Mais ce que je veux dire, il y a un autre aspect, moi, qui m'a donné beaucoup à réfléchir. Et ça fait un moment que ça m'intéresse, c'est de me demander dans quelle mesure un politique doit exercer cet exercice-là toute sa vie. Le fait d'être tout le temps là et de vouloir continuer à asseoir son autorité, son influence aussi, parce que c'est pas que des jeux d'influence par rapport à l'écologie, c'est aussi par rapport à sa position à l'Assemblée, par rapport aux autres députés.
Et par rapport à sa carrière.
Donc combien de temps on doit exercer vraiment le pouvoir pour ensuite continuer à être animé uniquement par le bien commun et pas par le fait d'être réélu un jour ou de continuer à avoir un poste
C'est ça toute la différence entre certains politiques. C'est-à-dire que il y en a qui sont des gens de conviction, de foi, et qui vont y croire tout le temps, et puis d'autres qui vont échafauder des plans de carrière. Moi, j'avais fait un autre film qui s'appelait L'exercice de l'État, justement. Ouais, vous parlez de l'exercice du pouvoir. Et c'est très bien raconté dedans. C'est le rôle que joue Michel Blanc.
Est-ce qu'on peut vraiment être toujours animé par le bien commun si on fait ça depuis 40 ans? Moi, je suis
pas. Il faut pas tomber non plus dans le tout vendu.
Non, j'ai pas dit vendu. J'ai dit garder intact.
J'ai dit loué.
Garder intact son intention.
Je pense que ça doit être très très difficile et je pense que c'est devenu de plus en plus difficile à cause justement des lobbies. Ça doit être difficile de garder son intégrité en permanence. Quand on voit que là, sur les fichiers qui sont sortis, on regarde les hobbies des gens quand même. Et c'est-à-dire que là, c'est parfaitement illégal. Il y a des données personnelles sur les fichiers qui ont été divulguées. Quand on voit que on connaît l'opinion des gens sur tel ou tel sujet et qu'on regarde même leurs hobbies, qu'on regarde où ils partent en vacances, ce qui intéresse leurs enfants. Enfin, je veux dire, il y a un moment, forcément, vous pouvez craquer. Vous voyez ce que je veux dire? Si tout à coup, on vous approche en vous disant, je dis n'importe quoi, mais tu es passionné d'astronomie, viens, je vais t'offrir un stage dans un des plus grands observatoires,
etc. Dans un télescope. Il n'y aura pas de sable. Promis, il n'y aura pas de sable.
Je pense qu'à un moment, il faut être sacrément cuirassé c'est tout à fait indirect et ça doit être dur.
Tous ces objets connectés, les moteurs de recherche et l'historique ou les grands GAFA savent très bien ce que l'on consomme, ce que l'on consulte, ce que l'on écoute, ce que l'on aime, donc nos opinions politiques. Et après, ils peuvent balancer des fake news. Les élections de Trump et différentes élections dans le monde ont pu être faites et influencées comme ça. L'argent est le nerf de la guerre. Ces lobbies, eux, non, sont sans foi, sans morale, tout ce qu'ils veulent.
Et puis ils ont de l'argent, surtout.
Ils ont de l'argent parce que les industries, soit chimiques, soit pharmaceutiques ou autres, voilà, ça s'appelle jeu d'influence. Ce sera les 13, 20 et 27, jeudi sur Arte à 21h. Et c'est déjà un succès annoncé.
Ça sent bon. Alors je rappelle le pitch pour ceux qui viennent d'arriver à l'instant. Un député et son assistant parlementaire bataillent pour l'interdiction d'un pesticide toxique. Alors déjà, ça voudrait dire que les pesticides seraient toxiques, donc voilà.
Quoi ?
Pas toxique. C'est comme les nuages de Tchernobyl, le pesticide, il tue les insectes, les mauvaises herbes.
Il touche pas aux légumes.
C'est pas parce qu'il y a une tête de mort, un poisson mort, un éclair, une croix gammée et 2 sens interdits sur une bouteille que tout de suite.
Tu peux pas consommer.
Mais non, mais regardez, on vend bien un libre service, le produit que c'est dans les cigarettes électroniques, là, la petite fiole, il y a 12 têtes de mort sur l'étiquette. On n'a pas le droit de le boire, mais on a le droit de le respirer. Donc je vois pas en quoi ça serait. Toxique. Alors donc pour finir l'histoire, un agriculteur porte plainte contre la multinationale qui fabrique les pesticides, qui l'accuse d'être à l'origine de la terrible maladie qui le frappe. Alors, je vous le dis, moi, je suis pourtant un féru d'actu, mais je vois pas du tout de qui vous parlez. C'est fou, Non, mais c'est vrai, on en parlait au début des séries, il y a souvent un avertissement, toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite. Là, vous devriez mettre en bandeau au début, tout personnage n'ayant pas existé serait purement une erreur de... Franchement, c'est... Si on prend l'histoire de la série,
ce serait drôle de démarrer comme ça.
Il y a eu 2-3 coquilles. Non mais c'est... Alors si on prend l'histoire de la série, déjà un député et son assistant parlementaire bataillent pour l'interdiction d'un pesticide toxique. Bon déjà ça réduit les possibilités. C'est peut-être le seul reproche que je ferai à votre série, faire croire que les députés travaillent, c'est... Non, mais ça va loin, non, non, non. Attends, attendez, je suis pas en train de dire que tous les politiques sont des feignants,
s'il te plaît.
Ça serait trop facile, si j'ai des emmerdes. Après, ce que je viens de dire, c'est que vous n'êtes pas au boulot, pardon, mais à 11h30, tu dois être au travail, donc tu te tais. Et non, mais je dis pas que c'est des feignants, mais en revanche, je voudrais quand même savoir quand est-ce qu'ils ont le temps de bosser, parce que tous les matins, ils sont à la radio, tous les soirs, ils sont à la télé, pardon, mais moi, j'ai jamais eu l'intention d'élire un homme ou une femme qui a la même vie que Nagui. Non, mais c'est vrai. Pardon, mais ils sont toujours là pour gueuler après les projets de loi, mais ils sont jamais là pour les voter. En mars dernier, l'Assemblée a voté pour repousser l'interdiction des pesticides à 2025. C'est génial. Donc en fait, au lieu de prendre une décision maintenant, on prend une décision maintenant pour prendre une décision dans 5 ans. Mmh. T'es en couple, t'as un couple qui veut divorcer, et le tribunal, il décide que tu pourras divorcer, mais dans 5 ans. Putain, c'est pas la même vie. Et puis le plus
c'est
fort, pas, c'est
on
que...
On en reparlera.
Ouais, vous avez le droit, mais pas maintenant. Et le plus fort, c'est que la loi avait été votée à 6h15 du matin, un samedi. Alors, déjà, logiquement, en boîte, à cette heure-là, il n'y a plus grand monde. Mais à l'Assemblée nationale, il y a eu 27 voix pour... 3 voix contre et 7 abstentions. Alors, à quoi ça sert de rester jusqu'à 6h du matin si c'est pour t'abstenir? Parce que, logiquement, à 6h du
boîte,
matin,
toi en
samedi,
boîte,
exactement, tu rentres de boîte, t'as réussi à ramener une fille chez toi, elle est consentante, elle va dans ton lit, c'est très bien, tout est cool, mais au dernier moment, tu lui fais un bisou sur le front et tu lui souhaites bonne nuit, ça n'existe nulle part. En attendant, je vous souhaite une bonne émission qui est garantie sans pesticides, mais avec 2-3 perturbateurs.
Ou presque. Merci, Xavier. Concentre. La bande originale. Puisque vous avez rappelé, Alix Poisson, tout à l'heure que Jean-Xavier de Lestrade est un documentariste, est-ce que vous lui avez posé la question de pourquoi la fiction, pourquoi ne pas avoir fait un doc, puisque c'est son métier, son savoir-faire. La fiction est une réussite, mais...
Bah, il a répondu assez clairement, c'est-à-dire que le sujet est déjà assez... ça peut être dogmatique, enfin il peut y avoir quelque chose, ou même un peu rebutant, parce qu'il y a beaucoup d'infos, que ce soit pour expliquer le monde politique ou le monde des lobbies ou les pesticides. Enfin voilà, on parle, il y a tout un épisode sur les recherches scientifiques et tout ça.
Et lui, ce qu'il expliquait... sur les chercheurs qui eux aussi se font manipuler,
acceptent ou pas. Et ce qu'il expliquait en fait, c'est que pour lui, le meilleur moyen de toucher les gens et de peut-être réveiller les consciences sur ce sujet, c'était justement de passer par la fiction et qu'elle soit très documentée, bien sûr, pour que les gens aient des vraies infos.
Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fiction qui aborde le sujet.
C'est la première. Cette triangulaire journalisme, lobbying, politique, c'est la première. Donc je pense que ça plaisait aussi beaucoup à la chaîne et tout ça, puis qui connaissait le travail de Jean-Xavier. Mais lui, il part du principe que, et je pense qu'il a raison, que si les gens sont touchés émotionnellement...
Dès le début, par la maladie...
Par l'amitié de ces deux hommes, par...
C'est un thriller, quoi.
Un thriller, c'est haletant. Et en fait, c'est ça qui fait, je pense, que les gens, à la fin de la série, se diront « Attends, mais moi aussi, je vais réfléchir sur ce que je mange, sur ce que je bois, sur ce qu'on nous impose, sur comment je me fais enfumer. » Mais c'est parce qu'ils auront vibré d'abord. Et je pense que c'est pour ça qu'il a choisi la fiction.
Absolument. Jeu d'influence, donc, c'est tous les jeudis du 13 au 27 juin, donc 13, 20 et 27 juin sur Arte à 21h. Et puis si vous ne pouvez pas attendre ces 3 semaines, l'intégralité, c'est sur arte.tv. Ça a déjà commencé d'ailleurs, puisque ça a commencé hier, jeudi, et ce jusqu'au 26 juillet en replay. Voici Alexis Le Rossignol. Ça va, Alexis ?
Oui, ça va. Bonjour.
Oh. Vous faites partie des gens qui n'ont pas de chance, Alexis.
Eh oui, Nagui, je sais que quand on me croise pour la première fois, on se dit ce gars-là est un séducteur et un mec prévoyant. Pas le genre de gars à oublier sa carte Monoprix ou à se faire avoir par la pluie. Mais en fait, non, ça, c'est juste une façade. La beauté et le charisme n'ont rien à voir avec la chance. Hier, j'étais chez moi, tranquille, en train de regarder le tennis, quand je me suis dit, dis donc, Alex, il y a un picard en bas de chez toi, est-ce que tu descendrais pas chercher des cônes?
Est-ce que tu quoi?
Tu descendrais pas chercher des cônes.
D'accord.
Des cônes, des glaces en forme de cônes.
Ah oui, je vois.
Donc, merci, me réponds, oui, très bonne idée, Alex, allons acheter des cônes. Je me lève, je prends 3 euros sur mon bureau. Ils sont à 2,50, les cônes chez Picard. Mais on sait jamais. Quand ils augmentent les prix, ils préviennent pas par SMS.
C'est vrai.
Donc je prends 3 euros et je sors. Et là, au moment où je ferme la porte, j'ai comme un flash. Je vois mes clés sur le bureau, mais c'est trop tard. La porte est claquée et je suis enfermé dehors. Vous connaissez ça déjà?
Enfermé dehors.
Ouais. Je sais pas qui a inventé les portes qui se claquent toutes seules, mais je lui souhaite de se noyer dans du Larry ou d'être obligé d'aller à un concert de Zaz, celui-là. Parce qu'il suffit d'une fois où tu laisses tes clés à l'intérieur pour annuler le bonheur quotidien qu'une porte qui ferme toute seule t'a procuré pendant des années. Ouais. Pourquoi n'a pas encore des portes à reconnaissance faciale ou vocale? Dans le monde de l'automobile, ça a évolué. Avant, pour verrouiller les voitures, on enfonçait le petit bitonio avant de sortir, puis on claquait la porte pour la verrouiller. Aujourd'hui, quand tu t'approches de ta voiture, elle te reconnaît. Elle ouvre ses rétroviseurs, elle cligne des phares, elle fait la fête parce qu'elle t'aime. Les portes d'entrée, elles font jamais ça. Tu vois. Parce que les portes d'entrée, c'est un truc qui fascine pas les Français. T'as pas un salon de la porte d'entrée à la porte de Versailles où ils viennent admirer par millions le dernier modèle de chez la paire qui pourront pas se payer, tu vois, qui pourront jamais se payer. Il y a une chanson qui s'est glissée. Non, la porte d'entrée, elle est là, presque ignorée, noyée dans la masse, alors que la porte d'entrée, c'est ce qu'on voit en premier quand on va chez quelqu'un. Mais les gens s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est des toilettes suspendues pour cette petite adrénaline que procure l'impression de chier en lévitation. Et surtout, des douches à l'italienne.
Ça va pas.
Pour ce que ça sert, une douche. Résultat des courses, il n'y a pas d'innovation dans le monde de la porte d'entrée. Et quand t'es enfermé dehors, t'as que deux solutions. Appeler un serrurier ou essayer d'ouvrir la porte par toi-même, avec une radio. Sachant que si un serrurier vient, c'est ce qu'il va faire. Hein. Avant l'invention de la radiographie, serrurier, ça n'existait pas comme métier. C'est une profession qui repose uniquement sur une astuce de grand-mère. C'est comme si les gynécologues gagnaient leur vie en disant « Pour tomber enceinte, c'est simple, pour faire le poirier après l'amour. » Tu vois. Bon, est-ce que ça fait descendre l'espoir?
Oui, on connaît. Merci.
Vous saviez
merci, Newton.
Merci. Bon, à ce moment-là, ma copine arrive.
Je me sens moins bien.
Elle arrive avec une radio. Oui, j'ai une copine, la célébrité, tout ça, bref. Enfin, mais je vois dans ses yeux qu'elle n'y croit pas trop, tu vois. Alors moi, pour la rassurer, je lui dis « T'inquiète, j'ai des copains gitans qui m'ont montré. » En fait, j'avais vu un tutoriel sur YouTube, mais c'est presque comme si je l'avais fait moi. Alors j'essaie, mais forcément, c'est pas exactement la même porte que sur le tutoriel. La poignée est pas du même côté, dans la vidéo c'était une radio des genoux, moi j'ai un poignet fracturé. Forcément, c'est moins facile, tu vois. Et je vois dans le regard de ma copine qu'elle y croit plus du tout. Mais là, c'est une question d'honneur, il faut que j'y arrive. Le mec dans la vidéo a réussi, je vais pas me faire humilier, tu vois. 10 minutes plus tard, bon ben j'abandonne, hein. Je suis en sueur, la radio est en lambeaux, j'appelle un serrurier. Ça sonne 2 fois, il décroche et il me répond « Oui, j'écoute ». Pas de bonjour, pas de allô, oui, j'écoute. Tu le sens, le mec qui se prend pour MacGyver derrière son téléphone. Oui, j'écoute, mais ta sœur, même ces gars-là, il dit allô quand on l'appelle. Et là, il me dit « Vous avez essayé avec une radio ?» Cette question, elle est destinée à m'humilier, hein. Parce que si je lui dis non, il va me dire « Ben essayez, si vous n'êtes pas trop maladroit, vous devriez y arriver. » Et si je lui dis « Oui, mais j'ai pas réussi, je passe pour un con. » Et donc, je passe pour un con. Et là, il me dit « Bon, c'est urgent. »« Ben non, passe demain si tu veux, je vais dormir sur le palier, j'ai un paillasson en alpaga. » Bon, là, j'ai raccroché, hein, j'étais énervé, j'ai plié la radio en deux et j'y suis allé comme un bourrin. Et ça a marché, donc il faut plier la radio en deux et l'utiliser du côté de la pliure. C'est ça qu'ils disent pas dans le tutoriel. Parce qu'ils veulent pas qu'on y arrive. Tout ça pour venir t'humilier devant ta femme après. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire ce matin.
Merci, Alexis. La bande originale.
Et vous retrouvez Alexis les samedis à 17h au Point Virgule et aussi au Festival d'Avignon du 5 au 14 juillet.
Non,
mais si.
Tout à fait.
Tout chic.
Ouais. Où ça, Avignon?
À Avignon.
À la gare. Il y a beaucoup de théâtre à Avignon.
Dans le. J'allais dire. C'est quoi le département d'Avignon? C'est les Bouches-du-Rhône?
C'est le théâtre. Dans quel théâtre?
C'est le Vaucluse. Elle te demande le théâtre. Toujours, en fait, pas le département.
Et il est à Jeun, hein.
Ne vous inquiétez pas, Le Paris.
Le Paris. Ah, super.
Avec un S.
Alexis Le Rossignol à l'instant.
Ah ouais, au naturel.
Ouais, il est comme ça. Il y a une dame qui est venue me voir dans un resto qui me dit pourquoi vous riez autant sur Alexis Le Rossignol? Je dis mais parce que c'est drôle. Elle fait non mais arrêtez de rire. J'ai écouté madame, excusez-moi, mais ça nous fait rire.
C'était Laurence Bloch, donc il y a un moment faut.
Elle croyait qu'on se forçait à rire. Donc je lui ai dit non, désolé madame. Vraiment, on trouve ça drôle. Et là-dessus, elle a rajouté bon, j'écouterai mieux la prochaine fois pour savoir si c'est vraiment drôle.
Non, mais on vous embrasse madame.
Véridique, oui, on vous embrasse. La bande originale d'Alix Poisson et de Laurence Tucker. On va commencer en musique à écouter ce qu'Alix Poisson écoutait fin des années 80. Ah ouais, carrément.
Ouais.
Avec le grand sweatshirt et tout.
Ah bah alors
et
moi
les pantalons
carrément.
En vert.
Ouais. Alors moi j'habitais aux États-Unis à cette époque. J'ai vécu 4 ans aux États-Unis, voilà. Ouais, la classe.
C'est pour ça que vous avez un si bel accent dans la série aussi.
Ouais, merci.
Dans quel coin des États-Unis?
En Caroline du Sud.
Ah, ouais. C'est moins la classe.
Ah, c'est pas mal quand même.
Tu te venges de dans quel théâtre en Avignon?
Mais moi, je connais la réponse. À Greenville. Quand je suis arrivée là-bas, ce tube est sorti et ça a été un espèce de raz-de-marée, mais hallucinant. Enfin, ici aussi, mais là-bas, c'était dingue. Et du coup, pour Halloween, c'était assez absurde. Je me suis déguisée en Chris Cross avec une copine.
Ah, mais non, ouais. Normalement.
Avec les tresses et tout.
J'allais dire, normalement, on se déguise pour faire peur.
Oui, mais non. Moi, j'aimais pas les sorcières, les trucs comme ça, donc j'étais déguisée en criss-cross. Okay.
Voilà. Votre père vétérinaire, votre mère prof de lettres, comment ça se fait que vous vous retrouviez aux États-Unis?
Parce qu'en fait, ma mère était justement prof de lettres et qu'elle avait demandé un détachement. Ouais. Et c'était assez marrant d'ailleurs, parce qu'elle voulait partir dans les pays de l'Est. Elle voulait partir en Russie, je crois, au départ. Et ils l'ont appelée en disant il n'y a pas, il y a les États-Unis. Et donc elle a dit d'accord, et donc on est parti là-bas.
Mais en tout cas, ça vous permet en effet de pouvoir jouer en anglais.
Ah oui, moi j'adore, vraiment.
C'est quand même pas fréquent pour toutes les comédiennes, donc ça vous fait aussi un plus. Là, on le voit dans Jeux d'Influence, mais dans The Collection aussi.
Ouais, et moi j'adore ça.
Qu'est-ce que ça change? Parce qu'on pose de temps en temps les comédiens.
C'est que c'est bien joué.
Oui, non. Pour vous, dans le jeu, dans l'interprétation, certains vont dire c'est comme si c'était ma langue, peu importe. Et d'autres vont expliquer que ça leur permet de se focaliser sur autre chose et donc d'être moins dans une forme de jeu surjoué ou d'être.
Ça, c'est vrai. Enfin, moi, il y a deux trucs. Le premier truc, c'est qu'effectivement, quand même, ça reste, c'est pas ma langue. Donc, du coup, je fais quand même hyper attention à être comprise et tout ça. Et du coup, il y a la moitié de mon cerveau qui est là-dessus. Et du coup, je pense que ça libère et ça le rend moins intense. Et après, moi, ça me désinhibe. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre, de ne pas avoir la même voix. Donc, du coup, j'ai l'impression que tout est possible. Quoi.
Ce qui est rare pour une comédienne, bien sûr.
De quoi?
D'être désinhibé, de se lâcher.
Ah, bah si, on peut être inhibé des fois. Mais là, ça flop.
Laurence Tucker, vous écoutiez dans ces années 80. Vous avez quelles images en réécoutant cette chanson?
J'ai grandi aux années Balavoine, à ses coups de gueule quand il était sur des plateaux.
Ouais, au JT face à Mitterrand.
Voilà, entre autres. Et puis, donc je me souviens très bien de ça.
De son militantisme aussi,
oui,
c'est ça le côté chanteur engagé.
Et malheureusement.
Il y en a moins aujourd'hui des chanteurs engagés.
Il y a Alan quand même.
Pardon.
Malheureusement, jusqu'à la fin.
Je engagé et engageant.
Ouais. Faut aller deux. C'est jusqu'à la fin, quoi, puisqu'il meurt dans cet accident d'hélicoptère en allant creuser des puits.
Pour,
avec Thierry Sabine.
En Afrique, ouais, pour pouvoir installer des.
Donc
des,
voilà,
des
le militantisme jusqu'au bout, et on peut être un artiste militant, c'est bien.
Et vous, dans ces années-là, fin 80, début 90.
Tout enfant.
Ouais, c'est le théâtre, on parlait de l'école tout à l'heure. C'est une enseignante qui vous conduit à finalement passer votre vie sur scène. Elle vous emmène au théâtre du peuple à Bussan, dans les Vosges.
Alors, c'est pas une enseignante.
Ah, c'est pas une enseignante.
C'est ma voisine, parce que c'est la voisine qui est décédée maintenant, qui s'appelait Marie-Thérèse Kopf, qui, elle, me voit jouer dans au lycée, au collège, et elle me dit, mais il faut absolument que tu ailles plus loin et que tu fasses ça. Et elle m'emmène au théâtre du peuple à Bussan, qui est un théâtre extraordinaire, où le cahier des charges, c'est d'ouvrir à la fin du spectacle les portes et du fond du théâtre, ce qui fait qu'on est sur une forêt, en fait. Donc pour Shakespeare, pour tous les classiques, c'est extraordinaire. Et c'est comme ça qu'elle me dit, mais il y a une option théâtre à Paris, c'est pas tout près, c'est 3 heures de route, mais il faut tenter ça. Et je me retrouve au lycée Lamartine à 16 ans. Tout seul, j'arrive, voilà, un peu, mes parents me disent, mais t'es jeune.
Super lycée, où il y a beaucoup d'ailleurs d'élèves de spectacle.
Oui, et puis il y a beaucoup d'options.
Il y a les horaires aménagés.
Ouais, il y a de la danse, il y a plein de choses, il y a de la musique, il y avait ce qu'on appelait à l'époque les bacs F11, F11 prime. Mm-hmm. Moi, je faisais un bac A3 à l'époque, c'était les premières années du bac A3.
Moi aussi.
A3 théâtre.
Bien sûr, A3 théâtre. Voilà,
j'ai eu mon bac grâce au théâtre, c'est vrai. J'ai eu une bonne note en théâtre et ça m'a rattrapé les maths.
On peut pas forcer tout le monde à être
bon. En fait, on n'est pas nul, c'est qu'on veut que les autres puissent s'épanouir dans les mathématiques. Exactement. On leur laisse la place.
On peut pas être bon.
En 2001, Alix Poisson, vous écoutiez. Mac the Knife en public et Ella Fitzgerald. Pourquoi ça correspond à 2001, cette chanson?
Parce que je me rappelle très bien, j'étais au conservatoire et dans mon tout petit studio de 13 mètres carrés, et quelqu'un m'a offert 2 lives d'Ella Fitzgerald, et j'ai eu l'impression de découvrir l'Amérique. C'est-à-dire que j'ai acheté tous les lives, j'ai acheté tous les disques de cette femme, mais j'ai acheté tous les lives parce que je trouvais fascinant ce qu'elle faisait en live. Parce que le live, ça pardonne pas. Enfin, je sais pas à toi que je vais l'apprendre. Mais ce qu'elle fait, il y a un enregistrement, par exemple, à Jouant les Pins.
C'est celui-là.
Ben voilà. Et ben, il y a 2 disques à 2 soirs d'écart. Eh bien, elle fait... En plus, ça nous parle, parce que je trouve que c'est ce qu'on devrait faire en tant qu'acteur. C'est-à-dire qu'elle arrive à faire des toutes petites modulations, des toutes petites modifications.
Nuance, d'ailleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qu'elle est une des seules à faire au monde.
Oui,
en fait.
Vraiment, c'est-à-dire que c'est très subtil. C'est pas, elle ne change pas tout à coup la mélodie sur 2 notes. C'est tout petit, c'est tout subtil, et ça fait que le mood n'est pas le même, que l'intensité n'est pas la même. et ne convoque pas la même émotion. Et elle le fait à chaque live.
C'est le cas des acteurs. Enfin, vous, quand vous êtes sur scène au théâtre,
je trouve qu'on devrait faire ça.
Refaire exactement la même chose tous les soirs, c'est terrible.
C'est terrible.
Mais il faut que le metteur en scène ait la sensation que vous fassiez la même chose. Mais vous, à l'intérieur, avec l'autre, avec le partenaire, vous pouvez moduler un petit peu.
Des petites choses, quoi.
Sinon, c'est terrible. On a l'impression d'un jour sans fin.
C'est la reine, c'est la reine. Enfin, elle, pour moi, c'est la reine, quoi. C'est la Fitzgerald.
Et 2001, vous entrez au conservatoire, Alix. Vous en sortez quelques années après. Vous commencez à travailler. Et en fait, vous parlez dans les interviews de votre voix, de votre physique, qui fait qu'on vous trouvait trop mature, ou vous avez la sensation.
Pour tourner, pour l'image. Ouais.
Pour
quelqu'un m'avait dit ça, ça m'avait horriblement vexé. Mais en même temps, je crois qu'il avait raison. Bon, celui que j'appelle mon papa de théâtre, monsieur Claude Mathieu, dont j'avais fait l'école au début, m'avait dit t'affole pas, t'énerve pas, parce que toi, tu tourneras pas avant 30 ans. J'avais 19 ans, j'ai un peu
sympa.
Fait ok, sympa. Je vais attendre. Et je comprenais pas très bien pourquoi. Et après, quelqu'un m'a réexpliqué et m'a dit tu sais, la caméra, c'est compliqué parce que ça attrape tout ce dont tu n'es toi-même pas consciente. Et donc, il y a une forme, comment dire, il faut être en adéquation, je crois. Il faut qu'il y ait un truc parfaitement en adéquation pour que la caméra vous accroche. Elle attrape des choses dont on a soi-même parfois pas conscience. Et c'est vrai que moi, il y avait un endroit où j'avais 23 ans quand je suis sortie du conservatoire, mais je faisais plus vieille, j'étais beaucoup plus costaud, j'avais 10 kilos de plus, j'avais une voix très grave parce que je fumais beaucoup. Et en fait, quand j'arrivais au casting pour des personnages de 23 ans ou 24 ans, on me disait « Ah oui, non, ça n'ira pas du tout. »
Pourquoi ?
Il rigole pas du tout.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?
Vous voyez ce que je veux dire ? En plus, j'avais peur de la caméra, enfin, pour donc je pense que François, ça sentait
mais
aussi.
Mais comment
pour le rôle de François Verny, c'était bien.
Comment on avance ? Parce que vous expliquez, faut être un peu centré. Ça arrive à un moment qu'on décide pas nécessairement, vraisemblablement.
C'est des hasards, c'est des rencontres. Moi, j'avais très peur de la caméra, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y avait un truc où pour moi, c'était une étrangère. Donc, il a fallu aussi apprivoiser ce truc-là.
Et comment on l'apprivoise ?
Oh bah moi pour le coup c'est ce que dit Laurent, ça a été une rencontre, c'est-à-dire que ça a été la rencontre avec Jean-Xavier de Lestrade sur le film de l'affaire Courgeot, où vraiment tout à coup je me suis dit c'est une amie cette caméra.
Toujours dans ces années 2000, Laurent Stocker, vous écoutiez. Et là, sur cette musique, vous entrez à la Comédie Française.
Oui, c'est ça. J'entre à la Comédie Française. C'est la marche des Turcs de Lully. Et en fait, cette musique, elle est diffusée tous les 15 janvier à l'issue de la représentation. Il y a ce qu'on appelle l'hommage à Molière. Donc moi, je connaissais pas très bien la Comédie Française avant d'y entrer, j'avoue. C'était pas du tout l'endroit où j'avais envie d'aller.
C'était pas un fantasme.
Non, pas du tout. Il y en a qui disent, si seulement j'allais...
Ah oui, c'est le Graal.
Ouais, moi, pas du tout. Moi, c'était plutôt la décentralisation, des théâtres un petit peu en marge, etc. Et alors, du coup, tous les 15 janvier, il y a cette musique où on est en ligne. Tous les 15 janvier, qui correspond à la date de sa naissance.
D'accord.
Donc, c'est le 15 janvier 1622.
Tout le monde se met en ligne comme des
joueurs de foot. Tout le monde se met en ligne comme
l'hymne.
Un joueur de foot. D'accord. Pendant l'hymne de Molière.
C'est génial.
Et on salue le buste de Molière.
Incroyable.
Est-ce que vous faites des blagues des fois ? Pas du tout.
Non,
oui. C'est toujours
pendant l'hommage à Molière.
Oui. Ah oui,
lui, il ne change pas au fur et à mesure des années.
Des offrandes.
Il
ne
change pas. Et en plus, c'est vrai que.
Des sacrifices ?
Il est.
On va sacrifier un acteur.
C'est la soirée.
On va sacrifier un jeune comédien.
C'est la soirée,
enterrer un enfant.
On enterre un enfant. On enterre un enfant.
C'est la soirée en fait où on fait. On se retrouve tous. C'est le seul moment où on est tous ensemble sur.
Ah oui,
toute la troupe
chouette.
Est là. Donc c'est assez émouvant parce que je pensais pas que ça allait me faire cet effet-là. C'est-à-dire que quand on se retrouve devant le buste de Molière qu'on salue, on salue l'ancien et c'est hyper émouvant.
Alix Poisson et Laurent Stocker sont venus pour parler d'une série qui s'appelle Jeux d'influence qui sera les 13, 20 et 27 juin sur Arte avec toutes ces histoires de lobby, de pesticides, de rapports de force et d'argent entre le journalisme, la politique et les industriels, quels qu'ils soient. Et alors, celle qui est très bien placée, c'est Anne-Laure Barral. Merci de venir à ce micro. Anne-Laure, vous êtes journaliste à France Info depuis 10 ans, spécialiste de l'écologie. Vous avez couvert la question de la réutilisation du glyphosate. Vous avez même notamment contribué à la révélation des Monsanto Papers, Monsanto étant la boîte qui fabrique ce produit extrêmement nocif, clairement pointé du doigt comme étant cause de cancer.
Classé comme cancérigène par l'OMS.
Voilà, donc de ce côté-là, il n'y a plus aucun débat. Monsanto étant racheté par Bayer, qui est un grand, une grande industrie aussi pharmaceutique, chimique, cette affaire continue d'exister et même continue de nourrir les colonnes des journalistes et énerver ceux qui se disent mais pourquoi cette loi n'interdit pas ce glyphosate. Avant d'en reparler de ce glyphosate, quelle est vous votre vision des lobbyistes et du lobby? Vous en diriez quoi?
Les lobbyistes, c'est des gens qui sont payés par des groupements d'intérêts privés pour les influencer. Enfin, la série est très très juste là-dessus. Mais les lobbyistes, ça peut être aussi des gens qui défendent une certaine vision de l'intérêt général, hein, avec les associations environnementales, les associations de consommateurs. En France, les ONG, elles n'aiment pas être traitées de lobbyistes. Elles disent plutôt qu'elles sont porteuses d'un plaidoyer. Mais dans le monde anglo-saxon, elles n'ont aucune honte à dire qu'elles aussi elles font du lobbying, mais elles font un lobbying.
Greenpeace fait voilà. du lobbying. Dans le sens, lobby, c'est donc influencer. D'ailleurs, l'étymologie, en anglais, ça veut dire quoi?
C'est pousser la décision, en fait. D'accord. Le lobbying, il se place sur, il veut décider de la norme, en fait. Peut-être que la norme, donc il veut influencer le politique ou
l'administratif, le fléau de la balance du bon côté,
qui va décider de comment sera encadré son secteur. Quoi.
Et vous aimez le catch et le tricot, vraisemblablement, puisque vous faites partie de ces journalistes listés par Monsanto.
Alors,
fiché,
visiblement. C'est alors c'est le cabinet.
Enfin, je sais pas si vous aimez le catch, je le dis comme ça pour déconner.
Non, mais c'était le cabinet donc Fleischmann et Hillard qui travaille notamment pour Monsanto, donc mes confrères ont révélé ce fichage et donc le fait que j'appartienne à une des 74 cibles prioritaires et donc j'étais une cible à éduquer, c'est visiblement.
Ça s'appelle comme ça, cible à éduquer.
Oui, il y a les alliés potentiels. Bon, ça aurait été vraiment la loose. Ouais. Après, il y a la cible à éduquer et la cible à surveiller.
Donc, c'est genre.
Je pense qu'il y en a un qui n'apparaît pas, c'est cible à éliminer.
Oui, mais c'est celui-là. Oui, mais je pense que à surveiller.
En fait, je pense que ça se rejoint, mais on ne peut pas l'écrire. Oui, mais il y a un peu quelque chose de ça.
Effectivement, ils doivent se renseigner. Fleischmann conseille à l'entreprise de se renseigner sur nos centres d'intérêt, donc le tennis, la chasse, le golf.
Honteux.
Et l'argumentaire qu'on nous a donné, c'est que, par exemple, on vous fait un sujet sur le golf, s'il n'y a plus de glyphosate, les golfs seront moins verts. Après, sur le tennis et la chasse, il faut m'expliquer. Et en revanche, je ne sais pas quel journaliste pourrait faire un papier favorable.
On peut vous reprocher de...
Après être allé à une partie de chasse.
Non, mais d'avoir une spécialité sur l'écologie et de l'autre côté, la chasse.
Oui, alors après, c'est décrédibiliser quelqu'un.
Oui.
Je pense que effectivement, aujourd'hui, on est peut-être...
Vous dites aimer l'écologie, enfin, vous dites défendre, faire des papiers sur l'écologie et vous tuer des animaux.
Oui, peut-être. Oui, oui.
Qui aide à la biodiversité.
Donc jouer. Bah, je l'avais pas vu comme
jouer
ça.
Moi, je le vois comme ça parce que je trouve ça honteux.
Voilà.
Je ne fais pas de partie de chasse non plus. Mais non, mais après, moi, je suis quelque part un peu. Soulagée de voir ce fichage qui me note comme neutre et sans avis sur le glyphosate ou sur Monsanto, ce qui est quelque chose de totalement illégal. Je n'ai jamais donné mon autorisation et je ne dois pas être fichée pour mon opinion sur une politique publique.
Mais apparemment, nous le sommes tous, quelque part, un peu fichés ou tracés. À propos de lobby, la dernière fois qu'on a bien vu et entendu la force des lobbies en France, c'est justement sur la chasse. C'est quand il y avait ce monsieur dont j'ai plus le nom en tête, peu importe, ça a été même la cause. La démission de Nicolas Hulot, et qui après une discussion, bingo, le permis de chasse diminue de moitié et d'un coup 60 espèces sont à nouveau potentiellement tuables sur le territoire.
Alors je pense que ça pose la question du choix politique en fait, c'est-à-dire que le lobbyiste il vient argumenter sur les intérêts du secteur qu'il défend, après jusqu'où va l'influence, le chantage, la menace.
Y a-t-il de l'argent ?
Le politique après il peut aussi faire son choix en connaissance de cause, il peut aussi s'informer sur ce que fait la science universitaire, sur la substance. Enfin, il peut travailler tout simplement, donc ça arrive à certains de le faire. Après, il a aussi sa vision de l'intérêt général, c'est-à-dire que le chantage à l'emploi, ça a beaucoup, beaucoup marché sur le monde politique parce que pour eux, la préoccupation des gens d'abord était de garder du travail en France.
Puisque tout est un jeu d'influence et un trafic d'influence, on parle là des lobbies qui exercent leur poids face aux politiques, mais j'imagine que face aux journalistes aussi, il doit y avoir des lobbyistes qui vous approchent pour avoir des papiers, des reportages qui vont dans leur sens.
Visiblement, dans la série, on appelle même l'intervieweur
politique du matin sur France Info pour lui souffler une question. Je suis ravie de ne pas avoir eu de rôle dedans et que ce soit Jean-Michel Apathy qui ait joué le rôle de celui qui souffle la question du lobbyiste.
Oui, mais attendez, c'est pas forcément... Moi aussi, je me suis inquiétée quand j'ai vu cette scène dans la série, mais en même temps, le personnage d'Alix, parce que ça vient jeter une sorte de discrédit.
D'une collègue, d'une ancienne collègue.
Non, mais c'est peut-être possible.
Mais non, ce que je veux dire, c'est pour expliquer, c'est que je pense que Alix, le personnage d'Alix Poisson, est suffisamment malin pour venir donner des informations et venir duper Jean-Michel Apathy pour qu'il soit amené à poser cette question-là. C'est encore plus pernicieux que
ça. Oui, c'est ça.
C'est pas des idiots.
Ça n'est pas demandé frontalement, c'est-à-dire c'est pas demandé contre un pot de vin ou contre quelque chose. Elle dit pas tu dois faire ça parce que en échange tu auras. Non, c'est beaucoup plus. C'est sous le couvert d'une connaissance, d'une amitié.
Ça reste en réseau.
Bien sûr.
Bah ouais. Ça reste un réseau. Donc vous avez été approché ou
tu peux poser l'autre question, s'il te plaît.
Alors moi j'ai approché moi-même. C'est-à-dire que je ne parle pas dans mon travail de journaliste, je dois faire la contradiction. Mais donc j'ai contacté et à chaque fois qu'il y a une audience dans le procès Paul François, donc de cet agriculteur qui attaque Monsanto pour l'intoxication dont il a été victime, j'appelle Monsanto France, j'appelle le cabinet d'avocats qui les défend pour demander quels sont les arguments, qu'est-ce que vous répondez à ça. Souvent c'est on vous enverra des éléments de langage. Un mail pour
un
vous
communiqué.
Dire. Voilà.
Est-ce qu'ils n'ont pas des soucis de boîte mail, ces gens-là? J'ai l'impression qu'ils répondent jamais.
Est-ce que vous avez, du coup, vous réussissez facilement, peut-être maintenant oui, mais à avoir des contacts physiques avec des gens qui vous répondent? Non, je veux dire, de vraiment avoir quelqu'un en face de vous qui vous répond, parce que j'ai l'impression que c'est très, très, très difficile.
Ils essayent de cloisonner un petit peu, de parler plutôt sur un angle. Ils veulent bien répondre à des questions sur un angle. Économique, mais après pendant le débat glyphosate, on avait des conférences de presse avec un certain nombre d'industriels, de représentants d'industriels, pour nous argumenter pourquoi il fallait que ce renouvellement se fasse, que pour eux il n'y avait pas de problème, il y avait énormément d'agences d'évaluation sanitaire qui mettaient pas, et c'est le cas, qui mettent pas que le glyphosate est cancérigène probable. Donc faut chercher à comprendre pourquoi il y a ces différences. Mais ce que les Monsanto Papers montrent, c'est comment ces entreprises influencent le doute dans la science. Et la science, elle avance avec le doute. C'est vrai, si un scientifique se dit si je remettais ça en cause...
C'est le cas dans tous les domaines, que ce soit l'industrie du sucre, que ce soit l'industrie...
C'est des vieilles méthodes de l'industrie du tabac.
Chaque fois, ils sortiront une étude en disant « Mais non, le tabac n'est pas cancérigène, mais non, le sucre ne rend pas accro, où il n'y a pas d'addiction au sucre. »
En tout cas, cette personne qui se dit malade n'est pas forcément malade à cause de ce produit. Parce que c'est là aussi, il y a
Mais ce que ça montre, c'est qu'effectivement, parfois, on a payé un chercheur indépendant, entre guillemets, universitaire, pour signer une étude qui a été faite clairement par le laboratoire, pour montrer que le produit n'est pas dangereux. Après, demander au laboratoire de dire si son produit est dangereux, c'est comme si vous alliez vous dénoncer aux gendarmes parce que vous avez grillé un feu rouge. Quelque part, il y a aussi peut-être des choses à inverser dans la façon dont on donne les autorisations.
Oui, enfin, je ne gère les cancers à personne. Merci de me pointer du doigt.
Non, mais vous voyez comment fonctionne le contrôle.
J'ai compris. On en est où des pesticides, des glyphosates? Ça va s'arrêter quand, cette histoire?
Alors, pour l'instant, il y a une réautorisation, courir jusqu'en 2021. Donc, on va avoir de nouveau un débat au niveau européen. Après, on a en France, on va dire, une volonté politique, mais pas forcément rentrée dans les textes, de dire on va essayer de sortir de cette substance en proposant des alternatives, faut accompagner les agriculteurs.
Et il n'y a pas que le glyphosate, j'imagine.
Le glyphosate, c'est la partie émergée de l'iceberg, on va dire, sur l'ensemble des pesticides. Il y a à peu près une centaine d'autorisations par an.
Donc il y en a encore plus sous l'eau.
Et il y en a qui sont suspectés d'être cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques.
Merci beaucoup d'avoir trouvé le temps. Anne-Laure Barral, de venir à ce micro. J'espère que vous reviendrez, parce qu'on a plein de choses à se dire sur l'écologie aussi.
Et sur les feux rouges.
Et sur la chasse. Tanguy Pastureau. Bonjour, Tanguy.
Bonjour.
Alors vous connaissez la date de la fin de l'humanité, carrément.
Oui, alors ne prenez pas vos agendas pour noter, ça ne sert à rien, puisque nous serons tous morts, à part Tom Villa, qui est jeune, si d'ici là, il ne tombe pas dans l'héroïne.
J'ai vu ça, c'est horrible.
C'est pour 2050. Ce sont des chercheurs australiens qui ont calculé ça. Alors j'espère que d'ici là, on aura l'épisode final des Feux de l'amour, sinon on ne saura jamais avec qui Kelly a trompé Matthew.
On en parle après les infos.
fait. Non, ça va pas.
C'est la bande originale. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudeli.
Bonjour à tous.
Tom Villa. Bonjour. Tom Villa sur eau. Alexis Laurent Signal.
Bonjour.
Bon, on peut pas te signer. C'est... Et nos invités, Laurent Stocker et Alix Poisson.
Bravo. Alors moi, je tenais à dire bonjour quand même.
Je quitte vous. Jeu d'influence. Cette série créée par Jean-Xavier de Lestrade qu'il réalise avec Antoine Lacomblaise, avec vous, Alix Poisson, vous, Laurent Stocker, de la Comédie Française, Jean-François Civadier, Pierre Perrier, entre autres, du monde et du beau monde. Tout le monde joue extrêmement bien. C'est bien dirigé, c'est bien filmé. C'est un thriller, c'est haletant. On peut pas commencer à voir la série sans vouloir aller au bout de, ouais, des six épisodes.
C'est
une véritable réussite.
Cool. Moi, j'ai réussi.
Le principe des séries.
Et on l'a entendu tout à l'heure avec Anne-Laure Barral, journaliste à France Info et spécialiste notamment de toute cette histoire de pesticides autour de Monsanto, puisqu'elle est carrément fichée, suivie, contrôlée, espionnée par Monsanto. Même nous, là, je crois qu'on est écouté par Monsanto. Enfin bref, on vous emmerde. Et bon, la vraie question aussi, c'est de se demander, parce qu'il y a une scène où le propre fils de l'agriculteur a un peu la tête qui tourne en entendant les sommes qu'on propose, ouais, pour retirer la plainte. Donc, la véritable question, c'est quelle est la valeur d'une plainte, d'une information ou d'une enquête journalistique, et quel est le prix? C'est-à-dire, ces industriels, pour eux, donner 100 000, 200 000, 300 000 euros pour qu'une affaire soit étouffée, ouais, par rapport aux millions qui sont en jeu, c'est rien. Et pour un agriculteur qui n'arrive pas à boucler son mois avec quelques centaines d'euros, c'est forcément énorme.
Et je pense que c'est pour ça aussi que Jean-Xavier, quand il nous a présenté la série, il nous a dit que, avant que ça soit une série sur les lobbies, les pesticides et tout ça, que d'une certaine façon, c'était une série sur le courage. Oui. Chacun à son échelle, c'est-à-dire à quel endroit chacun on met, ce que vous dites, le courage de dire non ou de dire oui, ou de refuser quelque chose, ou de plonger dans quelque chose. À quel moment on se pose la question, en fait, dans nos vies?
C'est le combat de, on parlait de cet agriculteur charentais, hein,
Paul François,
qui a défié Monsanto, qui est dans une bataille judiciaire depuis plus de 10 ans, donc ça sous-tend aussi d'être physiquement 2007, ouais, en forme, d'être capable de tenir, d'avoir des proches aussi.
Oui, d'être fort moralement.
Ouais, d'être fort moralement, parce que
c'est
faire face à un géant qui, en effet, on l'a vu, a des moyens de pression, mais qui aussi représente tellement d'argent que, en effet, comme dans la fiction, le fils de l'agriculteur, à juste titre, peut se dire, c'est quoi mon avenir, moi? Surtout quand on parle de cette profession des agriculteurs qui peinent tous les mois à s'en sortir, c'est se dire on les abandonne. C'est là où on voit la lâcheté. Elle est d'un côté, c'est celle des politiques.
Le chlordécone aux Antilles, c'est encore une affaire aussi importante qui touche toute la population.
Oui.
Et en fait, l'État est quand même en train d'enterrer l'affaire complètement, alors que c'est deux îles qui ont été complètement ravagées par un pesticide, et même certains habitants.
Le chlordécone,
sont très virulents vis-à-vis de ceux qui dénonçaient en disant, mais n'en parlez plus. Ouais. C'est-à-dire que même en interne, des gens qui sont touchés par ça, font du lobbying pour.
Tu jettes l'opprobre sur la profession, c'est en fait. Ça,
ouais. Jeu d'influence, vous l'avez compris, c'est passionnant et ça donne à réfléchir et à débattre. C'est une réussite. Sur Arte, à partir du 13 juin. Jeudi, tous les jeudis 13, 20 et 27 juin, deux épisodes par soir, 21h. Tout de suite, Tanguy Pastureau. Inlassablement, Tanguy, c'est votre côté vert, justement. Vous faites des chroniques sur la planète.
Oui, d'abord parce que je sors une chronique par jour. Hein. Je débite des mots comme un enfant bangladais, des t-shirts de sport. Et qu'il n'y a pas 12 000 thèmes possibles. Hein. Roland Garros, je m'en tape. Ça fait des années que c'est plus du sport. C'est un biopic de Raphaël Nadal. Macron, je me suis lassé. Les Gilets jaunes, il n'y a plus que Fly Rider en webcam qui essaye de décrypter un pif-poche. Donc, il reste le désastre climatique. Et je ne suis pas le seul à être préoccupé par ça. Regardez le score des écolos européennes. 13% des voix. Ouais. 12,5% de plus que Florian Philippot, qui a fait lui le quart du parti animaliste. Il s'est fait battre par une liste de coquers. Depuis, il lance des steaks au cyanure par-dessus le portail des réfugiés SPA en criant « Tu vas crever, Fifi !» Chef des écolos, Yannick Jadot. Sur le papier, c'était pas fou. Hein, il a le charisme d'un bout de camembert atteint de l'hystéria. Oh. Mais les gens ont tellement envie de s'engager pour la planète que même s'ils avaient présenté Mario de la Starac 1, il faisait 13%. Il la tenait, sa revanche sur Jennifer. Manuel Valls, qui s'est pris une tôle à Barcelone, Barcelone, aurait dû se présenter comme écolo, il aurait été élu. Là, il a annoncé son mariage. Sa seule façon d'aller quand même à la mairie, c'est ça. Et si elle lui avait dit non, il partait sur un renouvellement de sa carte d'identité, ce loser. Et Yannick Jadot, dans son esprit malade, imagine qu'on a voté pour lui en tant que personne. Mais c'est comme le chanteur de Bar Mitzvah qui pense qu'on l'a signé parce qu'il était le meilleur. Ben non, c'est juste parce que Gilbert Montagnier prenait une blinde. Hein, Jadot, en deux semaines, alors il s'est starisé. On le voit dans Paris Match, il nous a présenté sa chérie, une dame de RTL qui, du coup, s'est barrée. En deux ans, ils auront vu fuir tous leurs talents. Hein, il va uniquement leur rester Yves Calvi, plus René, le technicien de surface, qui aspire les cheveux d'Yves Calvi tombés sur la moquette. La France devient écolo, les amis, au point que des députés, dont Delphine Bateau, la seule à se faire harceler par des marins excités sur le départ de la route du Rhum, ont proposé la fin des vols intérieurs. Logique, vous faites un Paris-Marseille, il faut aller à l'aéroport, attendre une heure, l'avion est en retard, vous arrivez, il faut reprendre la voiture. Madonna, dans le même laps de temps, elle peut adopter 60 enfants. Le train, qui est non polluant, va plus vite. Et puis le train, ce sont des échanges humains. Tiens, ce week-end, j'ai pris le TGV, j'avais la place 46, une dame y était assise. Je lui dis, c'est ma place. Elle me dit, vous êtes sûr? Je lui montre mon billet sur mon téléphone, elle me dit, qui est cette dame? Je réponds, oh pardon, c'était l'appli YouPorn qui était ouverte, la catégorie intermittente du spectacle. On y voit des filles 100% épilées avec des pancartes, des moyens pour Radio France. Elle me dit, on est voiture 12? Je lui réponds, non, 13. Et là, elle s'était trompée de voiture. Un boulet! Je lui ai conseillé le Thalys pour aller se faire euthanasier en Belgique, mais elle devait se rendre à Limoges. Je lui ai dit, bon, d'accord, c'est pareil. Bref, le train, c'est de la convivialité. Mais l'avion, c'est nul. On ne se parle pas. On mate les fesses de l'hôtesse en se disant qu'en 2019, c'est une attitude sexiste hyper genrée qui pourrait nous valoir la mort. Au pire, l'opprobre sur Twitter. Dans le train, vous ne regardez pas le cul des contrôleurs, parce qu'à 90%, ils sont moustachus et s'appellent Jean-Pierre. Et par curiosité, quand les médias ont parlé de l'interdiction des vols intérieurs, là, j'ai lu les commentaires des gens sur le net, parce que j'aime bien savoir ce que le peuple exprime, contrairement à Louis XVI ou Emmanuel Macron.
Alors, il disait quoi, ces commentaires?
C'était varié. Hein, c'est le problème de la démocratie, les gens discutent de tout pendant des heures au lieu de casser des pierres, comme en Chine. Mais certains disaient, ouais, n'importe quoi, bientôt le retour de la charrette à bœufs. Et là, je me suis dit, et pourquoi pas? On doit changer radicalement si on veut sauver la planète. Regardez la petite maison dans la prairie. Ils étaient pas heureux, les Ingalls, avec leur carriole pour se déplacer dans leur ferme toute la journée à scier des bûches? Hein, vous leur auriez dit, allez Charles, on prend EasyJet, t'emmènes tes trois filles faire le spring break à Cancun. Elles vont se faire frotter par des étudiants en rut. Dans 9 mois, elles donnent naissance à des gosses mi-humains, mi-castors. Mais Charles Ingalls aurait répondu, fuck off bébé, je suis bien, on a tout. Des papillons, des abeilles, sans Arnaud Montebourg qui vient leur gratouiller le dard. Une rivière propre. Et puis le retour à cette vie-là, ce serait la fin des inégalités. Allez, Neymar, pour tirer sa charrette, aurait 16 bœufs au lieu de 2 pour les autres, mais c'est tout. Parce que ça urge le changement de civilisation qu'on doit s'imposer pour sauver notre peau. Là, des scientifiques australiens ont prédit la fin de l'humanité pour 2050. C'est terrible, ça veut dire que Michel Drucker connaît la date de son départ à la retraite. Hein. Mais 2050, c'est dans 31 ans, mis en sens inverse, il y a 31 ans, on était en 88. Or, c'était hier, 88, les t-shirts Chevignon, le groupe Bros, les appareils dentaires, la mononucléose, les posters de Sabrina. Et là, je réalise que je mets trop de moi dans les chroniques. Bref, 2050, c'est demain. Donc, je propose la fin de l'avion, la fin de la voiture, en tout cas pour Ariel Dombal, hein, parce qu'elle n'a pas besoin de se déplacer. Les voyages qui se font dans sa tête sont suffisants. C'est pas Yannick Jadot qui va faire le taf. Il en est déjà à penser à son article dans Gala où il posera sur ses toilettes sèches avec l'amour de sa vie, c'est-à-dire lui-même. Et même si demain, on vit à nouveau nu dans des champs et cueillir des petites baies, mais quel pied! Toute cette technologie, ces moyens de transport, ça nous a rendu joyeuses? Non, personne n'a jamais souri dans un train. Et si quelqu'un le fait, ça paraît tellement suspect qu'on tire le signal d'alarme. Retrouver les bœufs, les chèvres, fumer de l'herbe, faire l'amour, écouter Johnny Mitchell, le Larzac, enfin.
Merci, Tanguy Poisson. La bande originale, Maggie, sur France Inter. Alex Poisson, Laurent Socker sont nos invités pour parler de Jeux d'influence qui passera sur Arte 3 jeudi, les 13, 20 et 27 juin prochain à 21h. Dans cette série, Laurent Socker, vous êtes un homme politique qui est d'abord un ami. C'est être touché par la maladie de cet agriculteur qui va le faire réfléchir.
Oui, c'est un député en plus qui est proche de ses élus. Donc, non seulement il est proche de ses élus, mais en plus, le fait que ce soit un ami qui soit touché par la maladie, ça lui fait prendre conscience qu'il faut commencer à se battre contre certains produits.
Comment avez-vous travaillé ce rôle, ce personnage? Est-ce que vous avez cherché à lui donner une manière de se tenir, de regarder, de parler, de marcher? Enfin, je sais pas. Bah, comment on crée un personnage en se disant on cherche à le rendre sympathique, j'imagine.
On cherche à le rendre sympathique. On regarde. J'avais déjà travaillé avec des hommes politiques sur. Sur le film que j'avais fait avec Pierre Scholler. Donc je connaissais ce milieu-là. Je regarde comment ils réagissent, comment ils sont habillés, comment ils sont coiffés. Mais il y a une sorte de magma comme ça. Ils sont tous différents en même temps.
Oui, mais comment rendre sympathique un homme politique, justement?
Il y a des personnages.
Grande question.
Il y a des politiques qui sont sympathiques. Ça arrive.
Donc vous avez pensé à un.
Non, j'ai pas pensé à un personnage en particulier. J'ai pensé, si vous voulez, comme exactement ce qui est dit dans la série, c'est-à-dire j'ai pensé à des gens qui ont un idéal, à des gens que ça rejoint la chanson de Brel presque. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui y croient. Et je pense que j'ai pas une personne en tête, mais je pense que ça existe. Donc,
parce qu'il y a un petit roquet.
Je l'imagine.
Il y a un roquet qui est son conseiller, là, qui lui est prêt à tout, qui est un.
Oui, mais il est très sympathique aussi.
Oui, mais qui est presque aussi un lobbyiste à sa manière, quoi. Il joue d'influence, il a ses réseaux.
Mais
il...
c'est quelqu'un qui est.
C'est son assistant.
Il y a presque, c'est son assistant, mais il y a presque une paternité entre eux parce que.
Ouais. Il lui en veut de faire certaines choses dans son dos.
Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que en fait,
quelquefois, se comporte comme un lobbyiste.
On se rend même compte que certains politiques sont épaulés par des assistants qui font presque le travail à leur place, en fait. Donc après, si on est dépassé,
y compris écrire des discours aussi à leur place.
Y compris écrire les discours. Donc si on est dépassé, effectivement, c'est problématique.
La manipulation des lobbyistes pour auprès des, par exemple, des chercheurs ou des journalistes pour obtenir leur influence et le résultat ou le vote d'une loi au contraire, l'absence d'une interdiction est la même aussi du côté des, entre guillemets, gentils qui vont faire publier des dossiers qui vont dans tel ou tel sens.
Ils veulent faire une prise de conscience.
Donc ils manipulent aussi à leur manière et qui obligent le député. Je crois que la phrase de mémoire que vous dites, c'est je ne veux pas avoir à leur dire merci ou à leur devoir quelque chose.
Oui, c'est ça.
À ceux qui ont manipulé indirectement par un billard trois bandes.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas se dire je leur dois quelque chose et donc du coup je me sens redevable, parce que les codes de l'honneur existent chez ce monsieur, et donc du coup s'il se sent redevable, c'est foutu. C'est pour ça que quand ils essayent de l'approcher par le biais de sa femme, là ils mettent le doigt dans un engrenage terrible pour lui, parce qu'il peut plus s'en sortir.
Jeu d'influence, vous l'avez compris, sur Arte, cette bonne série qui a reçu le prix de la meilleure série au Festival de la Fiction TV de La Rochelle l'année dernière, passe cette fois-ci dans quelques jours à partir du 13, jeudi 13, jeudi 20 et jeudi 27 sur Arte. Voici... T'as vu comme je peux le faire mou?
Ouais, ouais, ouais.
Allez,
bon, c'est pas grave.
Allez, excellent. Voilà.
Ça tombe bien que vous ayez été aussi désobligeant avec ce lancement, parce qu'en fait...
Qui a commencé?
Ben non, mais c'est vrai. Mais, et puis même malgré ça, j'ai envie de vous dire qu'en vous voyant tous autour de cette table, vous êtes ce qui m'est arrivé de mieux cette semaine.
Ah, c'était
c'est dire si j'ai une vie de merde. Voilà. C'est-à-dire que sur l'échelle du somme, cette semaine, je me situe entre je me réveille et je découvre que je suis Laurent Wauquiez ou j'ai été réincarné en toilette de Donald Trump. Voilà où j'en suis. Ma petite fille de 5 ans est partie en classe découverte.
Ah ouais, donc
depuis une semaine.
Et c'est toi qui as pleuré.
J'ai envie de mourir, c'est horrible. C'est horrible. Alors je sais bien qu'habituellement à cette antenne, j'adore dire des horreurs sur mes gosses, mais c'est une posture en fait, c'est pour de faux. C'est un peu comme quand France Inter fait des journées sans plastique alors qu'on remplit des carafes avec des bouteilles cristallines. C'est pour faire genre, quoi. La vérité, c'est que moi, en fait, je les adore, mes mômes. C'est mes êtres humains préférés. Déjà parce que quand je les regarde, ils me rappellent qu'à un moment donné, leur mère et moi, on faisait l'amour. Et ça, c'est plutôt un bon souvenir. Non, mais elle le sait, c'est elle-même. Elle me l'a fait écrire. Et puis en plus, ils sont top. Ils ont toujours le sourire. Ils arrivent à garder le sourire dans un monde où Christine Angot est considérée comme une intellectuelle. Ça veut pas dire qu'ils sont optimistes, ça. Et c'est comme vous, Nagui. Je me rends compte que chaque semaine, je vous charrie. Mais en fait, je sais exactement ce que je vous dois. Je vous dis merci parce que je sais que quand je remplis des salles de 38, 39 personnes, c'est à votre notoriété que je le dois. Si les gens, ils sont prêts à endurer un spectacle de 2 heures,
Oui, je sais, c'est beaucoup, mais comme je disais aux filles que je draguais quand j'étais célibataire, vaut mieux coucher avec moi que voir mes spectacles, c'est beaucoup moins long. Eh ben, si les gens restent jusqu'au bout, c'est pour pouvoir me demander à la fin, hey, gentil Nagui! Parce que les gens, ils ont besoin de savoir si vous êtes quelqu'un de bien. Vous vous invitez dans leur salon 2 à 3 heures par jour. C'est le syndrome de Stockholm. Au bout d'un moment, ils ont besoin de savoir s'il y a un petit cœur qui bat derrière le geôlier.
C'est ça.
Donc ma fille est partie en classe découverte. Et alors, comment
c'est
on pas fait
ma...
pas
Ça, c'est pas ma faute.
Ah, voilà. Mais il faut pas commencer avec les petites phrases à la con, genre, oh, bah, c'est bien, faut couper le cordon, ça va lui faire du bien d'être loin de ses parents, profitez-en. Je les ai tout entendues. Ah, voilà. Il y a un mec qui m'a dit, oh, tu sais, Frédéric, moi, à 5 ans, je suis allé en colonie, j'en ai un très bon souvenir. Eh bah, tant mieux, mec. Si tu vis bien le fait que tes parents t'aimaient pas. Mais moi, j'ai pas voulu avoir des enfants pour qu'à 5 ans, je délocalise leur éducation. En plus, une classe découverte à 400 km de chez nous, mais n'importe quoi. On peut découvrir plein de choses de chez soi. Regardez-moi, tous les jours, je découvre des trucs. Ce matin, j'étais là, ma chérie, il est où l'égouttoir ? Dans le placard, comme d'habitude. C'est fou, voilà, j'ai découvert un truc. En plus, ça va me coûter 300 boules, cette histoire. 300 euros pour plus voir mes gosses. Mais sincèrement, les capotes, c'est plus rentable. Hein. La pauvre, lundi matin, vous l'auriez vue, elle était dans un état. Elle pleurait. Je l'avais pas vue comme ça depuis qu'elle nous a demandé le score de Benoît Hamon aux européennes. Oui, on est de gauche, je vous l'ai dit, on a une vie de merde. Et vous allez me dire, bah, si tu voulais pas qu'elle y aille, il fallait dire non. Mais j'ai dit non. Ma femme a dit non. Mais même elle disait non. Mais l'éducation nationale, ils ont une philosophie de frotteur, ces gens-là. Tu leur dis non, ils entendent oui. Ils ont commencé par me dire que si elle y allait pas, je devais quand même payer 300 euros. Alors je me suis souvent fait racketter quand j'étais petit. Je me suis dit, bon, bah, je vais payer, hein. Je paierai 300 euros pour avoir le droit de garder ma fille. C'est plus une classe découverte, c'est une rançon. Hein. Et là, ils ont changé de stratégie. Parce que les gens qui changent si souvent de programme, ils sont balèzes dès qu'il s'agit de s'adapter. Il faut pas sous-estimer la résistance mentale d'un prof. Ils passent des semaines avec 30 gamins. Ils sont sous-payés. Ils savent te la faire à l'envers. Donc, ils ont dit à ma fille, bon, tu sais, tu fais bien ce que tu veux. Si tu n'as pas envie d'y aller, on respectera ton choix. Mais par contre, c'est peut-être tes petits camarades qui ne pourront pas y aller. Oh, les pourris ! Alors, je voudrais pas trop m'avancer, mais je crois que c'est comme ça qu'ils font en Chine avec les Ouïghours dans les camps de rééducation. Du coup, ma petite fille est livrée à elle-même dans sa classe découverte. Alors nous, tout ce qu'on a, c'est un site. On donne des nouvelles.com où ils publient des photos tous les soirs pour nous rassurer. Il y a que 20 élèves qui sont partis. Hein. Une heure après, t'avais déjà 250 visites sur le site. Donc je dois pas être le seul parent à qui ils ont fait chanter. Hein. Sur les photos, les gosses, ils ont l'air souriants, heureux. Tu les connaîtrais pas, tu te dirais, bah, en fait, ça a l'air d'être une bonne idée. Ils ont l'air contents. Mais moi, je suis pas dupe. Je sais très bien que c'est une mise en scène. C'est pour tromper les inspecteurs de l'ONU. L'Iran a fait pareil avec les centres d'enrichissement d'uranium. De toute façon, on peut me dire ce qu'on veut. Je connais ma petite fille, c'est impossible qu'elle s'amuse pendant une semaine loin de son papa.
Merci,
Nagui sur France Inter.
Dans cette bande originale, Alix Poisson et Laurent Stocker viennent nous présenter Jeux d'influence avec un épouvantail d'ailleurs pour symboliser la série.
Un épouvantail sans tête.
C'est ça, ouais. qui est masqué. Et puis surtout la question de savoir qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux entre les lobbies et les pesticides. Il y a une prise de parti quand même. C'est clairement, on sort pas de cette série indemne. On est engagé obligatoirement.
Oui,
là, ah, si.
oui, là je pense que
clairement, il y a un vrai parti pris, quoi. C'est pas.
Oui, mais je pense aussi que, enfin, j'espère, mais je pense que le but de Jean-Xavier, c'était aussi de, enfin, en toute modestie, mais que de comprendre que justement, peut-être que c'est très compliqué pour les dirigeants de se mobiliser. Il y a une mollesse, certes, et on en est tous hyper affectés, mais je pense que c'est un bordel sans nom, quand même, justement, avec toutes ces pressions et tout ça, bah, et de se mettre tous d'accord au niveau de l'Europe, etc.
Si le font si peu, c'est que ça doit être compliqué, j'imagine. Voilà. J'espère, en tout cas, que c'est au moins la raison pour
laquelle. Mais que la bonne nouvelle, c'est qu'on a peut-être une solution, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on est tous citoyens,
tous
et
ensemble,
on peut tous aussi récupérer une forme de pouvoir que nous avons.
Le pouvoir, c'est notre consommation,
ouais. Ouais, c'est notre consommation, et c'est notre regard sur toutes ces choses-là, et sur comment peut-être on peut changer notre façon de vivre à petite, puis moyenne, puis grande échelle, et que si on le fait collectivement, moi je pense qu'il y a des choses qui peuvent changer. C'est le seul moyen qu'on a, parce que si ça change violemment collectivement, il y a un moment, forcément, ça va se réveiller.
Alors, vous êtes passé des pesticides à l'alcool en avril dernier, puisque vous avez tourné Alix.
Ah bon ?
Ben si.
Ça parle de... Il y a un moment, ça parle du vin.
Ouais.
Bah, je sais pas, il est président, directeur général d'une des plus grandes marques d'alcool.
Oui, d'accord.
Quel est votre personnage dans Mon Cousin, alors ?
Alors, Mon Cousin, donc, c'est une comédie réalisée par Yann Kounen, avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascal Arbillot et moi-même. Et moi, je suis l'assistante, le bras droit de Vincent Lindon, et qui dirige un énorme groupe consacré au vin. Effectivement. D'où votre enchaînement était hyper bien.
Hein, vous venez de tourner aussi Laetitia, là encore avec Jean-Xavier de Lestrade.
Oui, tout à fait.
C'est à croire que vous vous appréciez mutuellement.
Tout à fait.
C'est sur une affaire qui a existé.
Ah oui, 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 c'est sur c'est l'adaptation du formidable livre de Yvan Jablonka, qui est sorti il y a un an ou deux ans, je ne sais plus, qui parle de ce fait divers terrible qui a, à Pornic, la petite Laetitia qui avait été retrouvée morte, tuée par un monsieur qui s'appelait Tony Meillon, et qui quand même avait eu un retentissement...
Laetitia Perret.
Et qui avait eu un retentissement énorme, entre autres parce que c'était le moment où Nicolas Sarkozy avait dit que c'était honteux que ce monsieur soit resté en liberté, alors qu'il avait un casier judiciaire, et je ne sais plus exactement ce qu'il avait dit, mais en gros que les magistrats ne faisaient pas leur travail, etc. Et ça avait été un soulèvement des magistrats sans précédent. Voilà.
Vous, Laurence Stocker, vous jouez jusqu'au 16 juin, là encore quelques jours, Fanny et Alexandre de Dimar Berman, à la Comédie Française. Vous venez de terminer le tournage d'un film de Bernard Stora, mais j'ai pas le titre, pardon.
Villa Caprice, avec Nils Arestrup et Patrick Bruel. Et puis là, je fais une participation dans le prochain film d'Albert Dupontel.
Et vous avez participé au festival Culturissimo avec une lecture que vous avez faite.
Avec une lecture de David Fuenquinos.
Génial.
Deux sœurs, ouais.
C'était... Là aussi, il y a un suspense dans ce
livre. Magnifique.
Vous aimez cet exercice de la lecture ?
La lecture, oui, j'aime bien. J'ai fait aussi une lecture là, à la BNF la semaine dernière. Et en fait, j'aime bien depuis 2-3 ans, j'aime bien. Avant, j'étais très stressé par les lectures.
Pourquoi ?
Bah parce que en fait on la répète, mais c'est pas comme quand un spectacle est vraiment calé, etc.
Il y a pas de metteur en scène, si ?
Non, il y a pas de metteur en scène, c'est vous-même qui faites votre mise en espace, on va dire, mais c'est assez mais j'aime bien la lecture maintenant, oui, ça me plaît de faire des lectures publiques, j'aime beaucoup ça.
Des excuses à présenter, Frédéric Sigrist.
Eh oui, désolé pour le papa de Leïla Kadour Boudadi, qui, on l'a appris ce matin, n'a pas réussi à se débarrasser de sa fille, malgré ses différentes tentatives d'enterrement. Eh bien, croyez-moi, monsieur, qu'on le regrette également. Désolé pour Alexis le Rossignol. J'ai eu au téléphone à la pause la dame qui ne te trouve pas drôle et elle a rappelé pour dire qu'elle n'a pas changé d'avis. Voilà. Désolé pour Monsanto qui comptait ficher Leïla Kadour Boudadi. Bon, pas besoin, hein. Elle est assez transparente. Sa passion, c'est le popper. Ce sont hobby, l'alcool fort. Sa sexualité, pas clean. Si, il y a un petit truc, elle est prête à tricher pour gagner.
Ça, c'est pas
désolé pour tous nos auditeurs écolos, enfin, qui ont été choqués d'entendre Alix Poisson se réjouir du triomphe du glyphosate qui a permis de nourrir le scénario de la série. Le cynisme du showbiz.
Jamais de la vie. Frédéric Sigrist sera du 19 au 22 juin à la Fontaine d'Argent à Aix-en-Provence. Merci Alix Poisson.
Mais
merci
à vous.
Laurence
merci à vous.
Stocker. Et bravo pour ces jeux d'influence sur Arte. Je le rappelle, les 13, 20 et 27 juin, trois soirs, deux épisodes par soir d'une heure chacun, vous l'avez compris, c'est à voir absolument. Passez un bon week-end. Lundi, nous réécouterons Jean-Christophe Ruffin dans cette bande originale. Tout de suite, une campagne de Philippe Bertrand.